François de la Suisse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable de la communication de CPE Or Devise. On va parler avec vous de ces marchés, hein, des devises et de l'or. Parlons, si vous voulez bien, d'abord des devises. Comment évolue ce marché aujourd'hui ?
Écoutez, c'est un marché qui résiste, hein, parce qu'on est dans un monde qui évolue au niveau des moyens de paiement, et vous savez qu'on est de plus en plus sur des moyens de paiement électroniques. Néanmoins, comme le cash, les devises font de la résistance parce qu'ils ont des atouts spécifiques et ils correspondent véritablement à des demandes pour les clients. Alors, ce n'est pas des montants importants, mais tous les voyageurs qui partent hors zone euro, bien entendu, préfèrent prendre des devises avant de partir. Généralement, c'est un panier de devises de l'ordre de 450 euros, l'équivalent de 450 euros, mais ça vous permet de, lorsque vous arrivez tard, de prendre un taxi, d'avoir tout de suite un peu de cash sur place plutôt que de passer par des retraits, etc. Voilà.
Et des distributeurs locaux, pas toujours
tout à fait
facile. Il y a quand même une tendance de fond, on le voit bien. Alors, on dit que est-ce que c'est les banques, est-ce que c'est les États, mais il y a de moins en moins de cash. On le voit quand on fait des travaux, il faut effectivement justifier partout. Cette tendance de fond, comment les Français réagissent par rapport à ça ?
Alors, les Français souhaitent, si vous voulez, plus de 67% des Français souhaitent toujours pouvoir utiliser du cash, parce que si on ne pouvait pas utiliser du cash, ça serait une atteinte à la liberté. Mais encore, faut-il savoir que... Il y a des pays qui sont comme la France, puisqu'on est quand même l'inventeur de la puce et de la carte bleue. Du coup, on a moins de transactions en espèces. Mais en Allemagne, c'est un pays de cash. Les Allemands, aujourd'hui, vous pouvez acheter jusqu'à 10 000 euros sans aucun problème, sans présenter votre carte d'identité. Et au-delà, vous pouvez continuer. En France, aujourd'hui, vous savez que pour l'achat d'un bien, on est limité à 1 000 euros à l'achat. Donc, on a des pays de tradition très forte de cash, comme l'Allemagne, l'Italie, la Grèce. Et je parle de l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui... en termes de fraude, n'a pas plus de fraude que la France. Donc, c'est plutôt une question de mentalité.
Cette tendance de fond, donc, malgré cette tendance, on a ce que vous racontez, c'est-à-dire, comme il y a plus de voyages, finalement, des demandes par des usages de ce style-là, effectivement, d'avoir du cash quand on voyage, typiquement. Voilà.
Tout à fait, parce qu'en fait, le côté intéressant aussi de la devise, en dehors du fait que ça vous permet, lorsque vous arrivez très tard, parce que généralement, quand on prend l'avion aujourd'hui, avant, les avions arrivaient toujours à l'heure. Aujourd'hui, vous allez arriver souvent avec un décalage. Donc, vous arrivez à minuit dans un aéroport. Alors là, vous pouvez éventuellement, il y a des changeurs, vous pourriez éventuellement aller à une machine pour retirer de l'argent, mais il y a tellement de monde, tellement de queues, que vous voulez être le premier à pouvoir prendre un taxi. Alors, vous pouvez prendre des taxis qui prennent la carte, mais c'est pas toujours, il faut encore faire une nouvelle queue pour prendre un taxi qui prend les cartes bancaires. Donc, il y a ça. L'autre chose aussi, c'est que généralement, lorsque vous avez des devises, vous pouvez aussi payer moins cher un repas, par exemple. Parce que les gens qui vont vous prendre les cartes se feront peut-être des restaurants plus chers, alors que les petits restaurants locaux prennent moins cher. Donc, c'est aussi une possibilité d'avoir plus de contacts avec les populations locales, surtout si on va dans des pays un peu plus exotiques.
Alors, vous parliez aussi de l'usage avec les commerçants. Vous disiez qu'en Espagne, finalement, sur la carte sans contact, il n'y a pas de limite. Donc, il peut y avoir des surprises sur les comptes de certaines personnes. Du coup, le cash permettait de mieux...
Le cash permet aussi de gérer son budget. Beaucoup plus que les cartes bancaires, parce qu'on sait très vite que la carte, ça va vite, on a un dîner, on explose facilement et les retours parfois sont difficiles, surtout si vous avez, comme on dit, des débits différés. Si vous avez le débit immédiat, vous voyez tout de suite, donc ça risque d'être limité. Et puis parfois aussi, quand vous êtes parti à l'étranger, il faut prévenir votre banque que vous êtes à l'étranger, augmenter éventuellement votre plafond. Et si vous ne l'avez pas fait ou s'il y a quelque chose qui se passe pour des raisons de sécurité, la banque risque de bloquer rapidement vos paiements par carte.
Parlons à présent du marché de l'or, qui est l'autre de vos activités. Clairement, quand on regarde les courbes sur l'or, ça n'a pas été terrible au cours des derniers mois. Pourtant, avec toutes ces tensions, justement, le climat ambiance, on s'est dit, l'or aurait pu servir de fameuse valeur refuge. Ça n'a pas forcément été le cas.
Oui, parce qu'en fait, les tensions géopolitiques ont été... Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a eu une année remarquable sur les marchés financiers américains et les investisseurs ont été sur la bourse américaine, en particulier les institutionnels. Et c'est les institutionnels qui donnent le là du cours de l'or. Hein. Ce ne sont pas les particuliers, même si les particuliers comptent, mais c'est essentiellement les institutionnels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à un retour de l'or, une remontée du cours de l'or, parce qu'il y a un petit peu une conjonction de tous les différents éléments d'incertitude. Le fait qu'on commence à dire que les actions américaines sont surcotées, donc ça, et qu'aujourd'hui, ça peut poser des problèmes, elles coûtent très cher. Que le marché obligataire qui a été haussier pendant 37 ans ne l'est plus. Bon, ça crée aussi donc une attention sur d'autres produits. que les taux d'intérêt restent bas, que les tensions alors géopolitiques sont plus sensibles, puisqu'on a quand même la fin du cycle de négociation du Brexit qui peut donner à la fois le hard Brexit ou le soft Brexit. Et on sait que de toute façon, que ce soit le hard ou le soft, il va y avoir une perte de PIB à la fois en Europe et en Angleterre. On a en plus la situation italienne, avec un budget qui est en grande discussion avec l'Europe, et puis les tensions que l'on voit au Moyen-Orient, qui ne sont pas négligeables non plus, puisqu'il y a quand même une tension assez forte aujourd'hui entre l'Iran et l'Arabie Saoudite.
On pourrait dire que la prise de conscience a pris un peu de temps, on va dire, et qu'elle est en train plus ou moins de se mettre en place. Alors là, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait plutôt des particuliers qui, pour l'instant, avaient commencé à acheter.
Oui, alors on a vu, si vous voulez, un retour des particuliers. Alors, il y a des éléments aussi qui ne sont pas négligeables, c'est que en France, on achète de l'or lorsque l'or est à la hausse, comme les actions. Mais dans d'autres pays, les gens sont beaucoup plus sensibles au prix et préfèrent acheter quand l'or est moins cher. C'est le cas en Inde, c'est le cas en Chine, c'est le cas aux États-Unis et c'est le cas en Allemagne. Mais c'est vrai que, en plus, si vous voulez, des perspectives économiques qui sont un peu plus mises en doute aujourd'hui, on a une alerte en particulier pour les investisseurs individuels sur l'or.
Voilà. Alors on sait que ça doit être de la diversification hein, dans un portefeuille. Il y a toujours des sujets sur la fiscalité. Alors il y a ceux qui en ont depuis longtemps, donc ceux-là ils ont peut-être un peu moins de sujets, mais peut-être qu'ils ne vont pas pouvoir le sortir. La fiscalité, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui?
Alors,
vous avez rappelé que c'était 3000 tonnes d'or qu'on avait en France.
Voilà. Hein. Alors il y a un bas de laine français qui est l'un des plus importants au monde, après celui de l'Inde, et on vient juste d'être dépassé par l'Allemagne. Hein. Donc on a un bas de laine estimé à 3000 tonnes, et ces chiffres s'appuient sur, s'appuient sur des données assez précises, dans le sens où il y avait un institut international qui faisait une estimation des bas de laine des différents pays européens et qui confirmait donc ce chiffre. En plus, comme il faut savoir qu'il y a eu 515 millions de Napoléon, qui est la pièce fétiche en France, et ça équivaut à 2900 tonnes. Alors bien sûr, beaucoup ont été fondus, ont disparu, mais si vous rajoutez à ces Napoléons des lingots et autres pièces, on est là avec ces 3000 tonnes. Alors ces 3000 tonnes d'or, ça fait partie d'un héritage. Ils ont été acquis. Il ne faut jamais oublier que dans les années 50-60, le marché de l'or en France était le premier marché d'or investissement au monde. On traitait jusqu'à 600 tonnes sur la Bourse de Paris, parfois. Donc aujourd'hui, on est à un maximum de volume de 15 tonnes. Donc vous imaginez que s'il y avait un volume aussi important, que les gens ont, si vous voulez, cumulé l'or. Et cet or, aujourd'hui, il est bloqué. Alors, pour revenir à votre question sur les taxes, il est bloqué parce que les gens qui ont acquis cet or, soit par héritage, soit eux-mêmes, ils pouvaient l'acquérir de façon plus ou moins anonyme. Et surtout, ils n'avaient pas souvent de facture. Donc, aujourd'hui, ils ne peuvent pas bénéficier d'une autre option de régime fiscal qui est rentrée en vigueur qu'en 2006, qu'on appelle la taxation sur la plus-value réelle des biens meubles. Eux, ils ont une taxe forfaitaire qui s'applique sur l'ensemble du capital. Et cette taxe, ils la considèrent comme confiscatoire, et nous avions fait, ces peurs de vise, un sondage avec Ipsos en mai 2014, et qui montrait que les Français considéraient, surtout qu'ils sont au courant des taxes dans les autres pays européens. Hein. On est le seul pays à avoir une taxe forfaitaire. Du coup, les Français ne bougent pas, et quand ils bougent, pour certains, eh ben, ils vont le vendre ailleurs, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses.
Voilà, le message est transmis à Bercy. En conclusion, vous avez aussi un nouvel actionnaire qui vient qui prendra 100% du capital, c'est Loomis, un transporteur de fonds. Ça change quoi pour CPRO?
Bah écoutez, pour CPRO de vie, ça veut dire qu'on aura un actionnaire qui sera un actionnaire industriel par rapport à un fonds. Et que généralement, il peut avoir des stratégies davantage fixées sur le long terme, et ce qui serait tout à fait bénéfique pour ses peurs de vie, puisqu'il est dans le cash, nous sommes dans le cash. Donc ça devrait être tout à fait bénéfique.
Merci François Dassu.
Je vous en prie, merci beaucoup.